Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes au jeudi 10 octobre 2024 et il sonne 11h sur votre radio. Et vous comprenez que vous avez rendez-vous avec l'émission Club de la Presse. Nous sommes au quatrième numéro pour le compte à l'heure de cette semaine. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou Vitok Betomega est à la mise en onde. Jao Dakuta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Comme toujours, vous nous suivez en direct partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et merci à vous tous qui nous suivez partout au Togo. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Également, nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Michel Yaou Tsadza. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères ici présents, bonjour à mon homo qui est derrière la belle vitrée. C'est grâce à lui que Canal FM est suivi actuellement dans tous les coins du monde. Merci à lui, merci à Jérôme Kapucha qui va...
Et lui il est sur la mise en ligne.
Oui, qui va arriver très très bientôt. Mm. Si tu le permets, je voulais revenir sur un... débat qui a eu lieu ici, peut-être le jour-là, je n'étais pas là, c'est par rapport aux agents de communication. Vous savez, dans ce pays, vous savez, les Ivoiriens disent d'une manière vulgaire que le temps, c'est le meilleur conseil. Le temps est passé et maintenant, nous avons les yeux ouverts. On sait ce que c'est qu'un agent de communication dans notre pays. Le plus souvent, c'est des réseaux mafieux. C'est des gens qui sont organisés et quelque part pour empêcher d'une manière ou d'une autre la presse d'exister. Pourquoi je le dis? Vous savez, si je prends l'exemple du recensement général de la population que le Togo a organisé il y a de cela un temps, c'est une agence de communication qui au départ était sur la ligne. Et on s'est rendu compte comment par la suite, comment cette agence-là traitait les journalistes. Ça dit que si vous avez l'habitude d'être en chapeau avec des lunettes, votre prix est à part. Si vous avez l'habitude d'être en tapette, vous allez là-bas, votre prix est aussi à part. Ça veut dire que c'est à la tête du client, on vous regarde. Si vous êtes mal habillé, on sait combien on peut vous donner. Donc, c'est à la tête du client que les gens-là, heureusement que par rapport à ce recensement, les choses ont été... corrigé vers l'affaire où les médias ont été associés. Hein, on a compris que c'était vraiment un jeu. Il fallait vraiment disperser ces gens-là et mobiliser la presse pour faire le travail. Pour dire que la plupart de ces agences, peut-être il y en a qui font bien, mais la plupart, c'est des gens qui ne connaissent même pas les médias. Ils ne savent pas de lundi à vendredi quelle presse est là, quelle radio émet sur quelle fréquence, mais qui sont là et qui, ma foi, s'organisent pour prendre des sous et empêcher qu'il y ait la pluie au niveau de la presse. Je rappelle que le réchauffement climatique a touché aussi la presse. C'est la sécheresse actuellement. vous m'avez compris.
Je vous ai compris.
Il faut que nos camarades, nos collègues qui sont dans les ministères, pour certains... ils connaissent ce que c'est, ils connaissent leurs confrères, ils savent de lundi à vendredi, les presses qui paraissent et tout ça là. Mais il y en a aussi jusqu'à présent, je suis désolé, qui ne connaissent pas la presse privée. Et quand il y a quelque chose au ministère, il a peut-être 5 amis, parfois parmi les 5, les autres n'ont même pas d'organes, il faut venir manger quelque chose, on les appelle.
D'accord.
Et on oublie le travail qui doit être fait. C'est ça, de ça qu'est la question.
Merci beaucoup, Michel. C'est vrai que nous avons mené le débat ici en studio. Et vous l'avez si bien dit, vous n'étiez pas là le jour là hein, pour en parler. Mais je sais, il y a Ambroise qui était là. Et je me souviens même d'ailleurs que ce débat était bien sûr houleux. Hein, dans ce studio, il y a Jean Paul
Rouge qui était là. Fallait le faire.
Oui, Jean, bonjour.
Pascal, bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Je vais bien, par la grâce de Dieu. Mmh. Bonjour à Michel et bonjour à Ambroise. Bonjour également aux techniciens derrière la baie vitrée, à toutes les auditrices et auditeurs qui nous écoutent sur les différents canaux digitaux et sur Canal FM. J'ai envie de dire ce matin, courage à tous les Togolais, quel que soit ce que vous traversez, quelles que soient les difficultés. Moi, je dis que tant qu'il y a Dieu, il y a espoir. Parce que vous savez, quand vous vous réveillez le matin, vous voyez le soleil se lever sans aucune aide et se coucher le soir. Vous voyez les saisons de la vie, les saisons de l'année, la saison pluvieuse, la saison sèche, s'alterner sans qu'aucune œuvre humaine ne provoque ces alternances.
Mais Jean, j'aimerais bien sûr t'interrompre alors sur le fait que quand tu dis tant qu'il y a Dieu, il y a espoir, est-ce que finalement ce ne sont pas des dictons que nous utilisons pour, en quelque sorte, nous donner du courage et au-delà de cela, être dans l'inaction?
Tu ouvres là un débat parce que, vous savez, moi je dis, pour celui qui n'a pas de force, pour celui qui n'a pas de piston, il n'a que Dieu. Parce que parfois, les faibles sont opprimés par les puissants. Et quand les puissants ont tout, ils se disent qu'ils sont Dieu. Mais il y a un Dieu quelque part pour les faibles, il y a un Dieu pour les malades, il y a un Dieu pour les opprimés, il y a un Dieu pour tous ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à changer leur situation. Et tant que vous-même, vous savez que vous êtes incapable, vous n'avez autre que Dieu. Sauf que Dieu, que nous appelons, opère suivant des principes, notamment le travail. Vous ne pouvez pas invoquer Dieu être un paresseux. Vous ne pouvez pas invoquer Dieu être un malhonnête. Vous ne pouvez pas invoquer Dieu et mal prendre soin vous-même de votre santé. Parce que c'est Dieu qui vous donne la santé, mais également, il a des principes qu'il faut suivre. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame et que les gens sachent replacer Dieu au centre du débat et ne pas se fourvoyer pensant que Dieu descendra du ciel. Non, Dieu ne descendra pas du ciel, mais obéissons à ces principes et nous verrons ça m'énerve.
Comme quoi, la foi sans les œuvres est une foi vaine. Hein.
Vaine, comme tu le dis, Pascal.
Ambroise Kondio, bonjour.
Oui, Pascal, bonjour. Bonjour, cher confrère ici présent.
J'espère que tu vas bien.
Je rends grâce à Dieu. Mettons Dieu au centre de tout.
Il semble que vous n'êtes pas écouté à la maison, surtout que il semble que votre micro, je vais vous déplacer un tout petit peu pour l'autre micro, c'est mieux. Et le temps alors de saluer Magloa Kenvitekou. Magloa, bonjour.
Bonjour à toi, Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Ça va pas la grâce de Dieu, puisqu'il s'agit de Dieu ce matin. Voilà. Je vais bien pas la grâce de Dieu.
C'est l'essentiel.
Ah, ouais.
J'espère que vous accompagnez des actions avec Dieu, c'est très important.
Bien évidemment, vous savez que le souffle de vie, c'est Dieu qui donne. Et le reste, il revient à l'homme de d'entretenir sa santé. Mais beaucoup de gens ont en projet des voyages ce matin, mais ils n'ont pas eu cette grâce-là de se retrouver parmi les vivants. Et donc, qui plus est, nous, qui peut-être n'avons pas dans l'immédiat un projet comme ça, mais on est en pleine forme, on ne peut que lui rendre gloire.
D'accord. Maintenant, je reviens à Ambroise. Ambroise, bonjour.
Oui, Pascal, bonjour.
Voilà,
bonjour. Chers confrères ici présents, les techniciens qui sont de l'autre côté, j'ai changé de fauteuil, mon fauteuil mythique.
J'espère que vous trouvez le réseau là-bas.
Surtout qu'il est à côté du Tonjon.
Avec Michel, ça va aller pour le mieux. Je voudrais partir de Dieu pour dire ceci. Nous avons appris la mort, le décès d'un ministre la dernière fois.
Oui. Vous voulez parler du ministre Pré?
Oui, c'est pour. Je veux partir de là pour essayer de me plonger dans la nature des humains que nous sommes. C'est-à-dire le flot de dommages qui a eu lieu sur les médias, sur les plateformes. Je voudrais aussi lui rendre un hommage parce que moi, je ne le connais pas tellement. Mais la première fois que je l'ai vu, c'était à la primature. Je crois qu'il était directeur, il est directeur de cabinet en ce temps-là.
Tout à fait.
Au temps du Premier ministre Sela Gudji Oumezounou. Oui. Et c'est au temps d'Ebola. On nous avait invités. Moi, on m'a appelé directement. Et on est allé. Mais l'aspect que le monsieur m'a présenté, moi personnellement, nous a présenté, très courtois. J'ai dit, mais tiens, lui. Et il a même le courage de m'appeler. C'est un bref, oui, je l'ai approché. Il dit, non, ce problème, le problème là sera réglé, quoi. C'est-à-dire que, oh, déjà, ça t'empêtait, parce que le premier ministre ne venait pas. Lui, il est arrivé, que c'est lui, tout cela. Et il nous a rassuré que Ebola est pris en tenaille. Donc, nous, notre problème, ou notre mission, c'est d'aller informer le peuple. Et il a dit quelque chose, il a ri, quoi. J'ai dit, mais lui, là, on ne dirait pas qu'il est directeur de cabinet. C'est-à-dire, il s'est mis au bas de l'échelle, et il a un ton, il a un sens du mot, là,
tout à fait.
Qu'il a fait. Donc, c'est, et je ne suis pas étonné, je ne le connais pas tellement, je n'étais pas étonné quand le flot des hommages se sont rués sur les médias et sur les réseaux sociaux. C'est juste pour... quand vous faites bien, vous n'avez pas besoin de donner l'argent à quelqu'un. Le seul même de l'accueillir, d'être sympa avec lui, comme nos amis, les officiers de l'armée et certains officiers, quoi qu'on dise sur eux, de la police et de la gendarmerie, quand nous on les approche, bon, on n'a pas de problème, quoi, y compris le général Yac. Ça aussi, lui aussi, je lui rends cet hommage, parce qu'on a une image de la personne très loin, mais quand on l'approche, c'est une autre personne. Moi, je l'ai appelé une fois, 1h du matin. J'étais étonné que le général Yac a pris ça. Et il y avait des cas de voleurs chez nous. Il m'a indiqué automatiquement un commandant. Et à 23h, on s'est transporté sur les lieux. Donc, c'est pour rendre un hommage à ce monsieur-là, pour dire aux autres qui sont vivants, nous sommes tous là, mais on va partir un jour. Quand tu fais du yo-yo, là, du wan-wan-wan, mais quand tu fais du wan-wan, le moment viendra, tu vas disparaître. Avant que tu ne disparaisses, tu iras à la retraite. Et personne ne te regardera, quoi. C'est-à-dire que le monsieur là, j'ai appris qu'il était souffrant, mais il était toujours à la présidence. Il est uni, il est du parti uni. Moi, je vais lui rendre hommage parce que c'est parce qu'il est uni que la personne que moi je vais étiqueter. Non, on ne fonctionne pas comme ça. On s'en fout. Faut bien s'y fait bien, on le dira ici. C'est ici, moi je le dis immédiatement. Là, je m'en fous de ce que les gens pensent, quoi. Et de la même manière, quand ça tourne au vinaigre, c'est encore moi qui viendra envoyer tous les missiles du russe, y compris Satan 2. Donc, pour vous dire en réalité.
Vous disposez déjà de Satan 2.
Pour vous dire en réalité, que soyons bien, soyons généreux, soyons honnêtes et soyons sympas à l'endroit de nos citoyens.
Tout à fait. Alors, c'est des valeurs.
C'est des valeurs que nous devons cultiver. Et c'est pourquoi je reviens toujours au niveau de nos amis, les gendarmes et les policiers. Il y en a qui sont zélés, surtout les jeunes qui viennent là, ils ne maîtrisent pas. Mais leur patron, leur chef, adjudant-chef, officier, sous-officier, c'est des gens qui sont pratiquement humains et ils comprennent la situation que nous vivons. Des fois, tu n'as pas l'argent, on te dit d'aller payer des SR, le matin là, tu n'as rien à la maison aux enfants. Mais ils arrivent à comprendre. Il t'a dit que je suis en train de le dire parce qu'ils sont humains. Mais au même moment, s'ils te donnent le quitus de partir, ça veut dire que demain, s'ils te prennent, tu es foutu. Là, c'est clair que la semaine-là, tu dois remplir ton devoir. D'accord. Donc, pour dire qu'en réalité, c'est pas comme ça, les gens doivent rouler sans permis.
D'accord. Merci beaucoup. Justement,
donc, juste pour dire que nous sommes humains, soyons humains pour toujours, avant de quitter la terre, et que ces hommages-là nous reviennent par rapport à ce que nous avions eu à semer.
Justement, c'est des valeurs que nous devons cultiver. Oui. Alors, vous parlez de la route tout de suite. Et je ne sais pas si, Michel, vous avez emprunté cette voie qui passe par les locaux alors de Canal FM avant de venir, parce que déjà, cette voie a été bloquée depuis le début de la semaine. Mais le constat est fait qu'il n'y a même pas de signalisation, de telle enseigne que des gens préfèrent maintenant prendre la voie par Tocoin Trésor. Oui. Et par Tocoin Trésor, il y a tellement d'embouteillages maintenant. Sur la voie.
Mais il revient aux entreprises à qui on a confié les travaux de prendre des dispositions en amont. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer les travaux sur la route sans les balises, sans indiquer les déviations, et pas n'importe quelle déviation. Les déviations qui quand même permettent aux usagers de la route de circuler librement. Et s'il n'y a même pas de balises, il n'y a rien, mais ça devient compliqué. C'est ce que c'est pourquoi moi je ne suis même pas passé par là, parce que comme la dernière fois j'ai vu qu'il y avait des difficultés là-bas, moi j'ai préféré venir du côté de Décon, voilà. Parce que je sais pas pourquoi l'entreprise n'a pas pris des dispositions. Je ne connais pas l'entreprise en question, sinon on devait la citer ici pour qu'elle comprenne qu'elle est sur une mauvaise voie. Ce qu'elle fait là n'est pas normal. Parce que ça peut créer des désagréments qui, au finish, peuvent déboucher sur des drames, ce que nous ne souhaitons pas.
Jean, la moindre des choses, c'est de mettre des signalisations pour que les usagers de la route puissent comprendre que, mais écoutez, cette voie est bloquée.
Non, c'est le minimum à faire. Quand vous savez que le travail que vous allez faire va perturber les usagers, le minimum, c'est de communiquer. Combien de fois on ne rappelle pas cela ici. Mais bon, comme vous savez, dans ce pays, on ne sévit pas, on ne rappelle pas les gens à l'ordre, ce qui fait que chacun fait ce qu'il croit bon faire, sachant bien qu'il n'aura aucun compte à rendre. C'est là où on assiste à ce que ces sociétés font comme... moi, j'appelle ça du travail médiocre, parce que quand on vous confie un travail, c'est de l'amont jusqu'à l'aval. Il faut tout faire dans les normes. Maintenant, je ne sais pas si est-ce que la mairie peut interpeller cette société, si c'est la mairie qui a remis le chantier ou bien l'autorité contractante qui a remis le marché, pour qu'on interpelle cette société afin que les choses soient faites selon les règles de l'art.
Alors, nous allons parler... Magola, vous avez quelque chose à dire à propos de cela?
Oui, non, mais je crois que les confrères ont dit l'essentiel. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que ben, la preuve, vous avez vu que j'étais arrivé en retard. Ce n'est pas pour me dédouaner, mais je ne savais pas que la route était en chantier. J'arrivais quand j'étais tombé sur la, comment vous appelez ça, les barrières de sécurité. Et j'étais obligé de contourner par des ruelles de Guadago. Alors là, il y a un embouteillage monstre là-bas. Donc, mais. Je crois qu'à l'arrivée, qu'est-ce qu'on peut dire? Logiquement, ces travaux-là, ça va dans l'intérêt de la population. Mais au même moment, prenez les dispositions pour que le travail puisse aller normalement. Ça, ce n'est pas nous qui allons apprendre à cette société qui travaille là-bas comment est-ce que quand on entame un chantier, on envoie un signal clair aux gens qu'il y a cette route qui est en chantier. Mais vous laissez les gens chuter sur vous comme ça. Et c'est maintenant qu'il se débrouille à trouver des passages par des ruelles. Et qui sait, ça peut déboucher sur des accidents et tout. Et donc, ce n'est qu'une interpellation. Si c'est la mairie, il faut qu'elle rappelle la société à l'ordre de commencer déjà par le feu rouge qui est là-bas. C'est-à-dire, vous venez de Tocoin Séminaire, le premier feu rouge là, vous virez parce qu'il y avait entre-temps un gros trou qui est sur au niveau de la pharmacie.
Un trou béant là.
Un trou béant. Et entre-temps... C'est cette route-là, cette portion de route qu'on essaie d'arranger. Mais on a encore repris du nouveau du marché de Hancope venant à la radio Canal FM. Et tout ceci, c'est une bonne chose. Sauf qu'il faut, enfin, il faut informer les gens. Sinon, la manière dont ça se fait maintenant, ce n'est pas encore ça.
D'accord. En bref, le constat fait, c'est qu'entre-temps, il y a ces travaux qui ont commencé et comme Magloire le disait tout de suite, c'est le trou béat qu'on a eu à fermer et par après, allez, la voie a été ouverte pour la circulation. Mais bizarrement, le constat est fait que la voie est restée intacte. C'est-à-dire, il n'y a même pas alors de bitumage. Les choses sont restées ainsi. Est-ce que finalement, on ne doit pas prendre même d'ailleurs les mesures ou les dispositions nécessaires pour bitumer même la voie?
Oui, je crois que... d'abord, moi, j'ai déjà été plusieurs fois victime, donc je ne passe plus la voie là. Je contourne par Tocoiranco pour... arriver au niveau du commissariat central avant d'arriver ici. Ça fait au moins plus de 10 fois que je... Parce que des fois, j'ai garé au niveau de Total, qui est à Badago.
À Badago.
Pour venir ici. Prendre ces médias pour venir ici. Parce que le temps de retourner, faire le rond avec l'embouteillage qui est sur la voie de la gendarmerie, là, ça ne va pas aller. Je crois que c'est la mairie, Golf 4, qui s'en occupe. Et je me demande, est-ce que la mairie a tous les moyens, surtout financiers, pour pouvoir faire face à ce travail-là. Je l'avais dit ici que le DAGLE doit aider la mairie Golf 4. Parce que Badago, les routes de Badago sont compliquées. Hein. C'est-à-dire que nous, on voit la route comme ça. La façade et jusque la chaussée, jusque-là. Mais le fond, au fond, mais c'est des tunnels, c'est des bizarreries qui sont là, qu'il faut reconnecter. Il faut des ingénieurs pour savoir où se trouve quoi. D'abord, le plan même d'évacuation, de canalisation des eaux qui sont au fond, qui sont en dessous de la chaussée, c'est ça le vrai problème. Parce qu'on ne peut pas se lever et venir bitumer. il faut recanaliser les eaux. Parce que Gadagou est d'abord un quartier inondé, proche de la lagune. Depuis Nekonakwa jusqu'à Bé, c'est un quartier qui longe les rivages de la lagune. Et donc, même chose, il va y avoir une inondation dans le quartier. C'est pourquoi ce quartier n'a jamais été assaini. Maintenant, accuser la mairie, moi je ne vois pas, je ne veux pas non plus dédouaner la mairie, mais je ne veux jamais accuser la mairie parce que je sais de quoi il s'agit. Quand Midnesson avait bitumé la route protestant à Badago, on sait le temps que ça a pris, mais on sait la souffrance que cette société a eue pour pouvoir finir cette route là-bas. Donc, le pire, c'est que quitter maintenant la jonction là où le bitume est arrivé au niveau de la jonction Badago à Hankopissimé, jusqu'ici, c'est là-bas, il y a des trous. Il y a des tunnels, il faut savoir agencer, il faut casser beaucoup de choses. Et donc, ça risque de prendre du temps. Donc, il faut qu'il y ait des ingénieurs et ça coûte de l'argent. Donc, le DAG doit aider la mairie à vite opérer cela. Je vois des caterpillars de loin là-bas ce matin, mais je crois que il faut que l'État s'imprègne dans certaines choses. Il ne suffit pas de mettre les territoires pour créer des communes. Et maintenant, si les gens doivent avoir un marché pour avoir l'argent pour maintenant réaliser des œuvres ou des ouvrages, ça aussi est un problème. Donc, je crois que peut-être la mairie a des fonds, mais il faut des ingénieurs pour pouvoir l'aider à réaliser ce qu'il faut.
D'accord. Marouane, nous allons parler cinéma, parce que vous en parlez à la une de votre journal, dans le journal aujourd'hui, Flambeau des démocrates. Vous écrivez Togo cinéma, des lieux d'espoir. C'est une interrogation. J'ai pris le temps nécessaire de lire l'article. Vous êtes parti même d'ailleurs de l'origine du cinéma au Togo et avec les grands tenants même d'ailleurs du cinéma. Et par après, même les derniers développements même d'ailleurs du cinéma aujourd'hui avec ces lignes qui bougent, mais vous pensez tout simplement qu'il faut assez d'efforts pour que le cinéma togolais soit au firmament.
Bien évidemment, vous savez aujourd'hui que chaque moyen bon pour un État de se vendre, de se polir son image. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de Nollywood pour ce qui est du Nigeria et vous savez combien le cinéma nigérien inonde nos sociétés. On parle du cinéma ivoirien, on parle du cinéma indien et le Hollywood n'en parlons même pas.
Même le Burkina Faso.
Exactement. Le Burkina Faso a une grande avancée sur le 7e art sur le continent, du moins sur le continent noir. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, si on veut questionner le Togo sur l'état de son 7e art, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement? Et c'est cette réflexion-là qui nous a amené, surtout qu'il n'y a pas longtemps. Lorsque vous prenez ce gouvernement actuel, je crois que le président de la République et le Premier ministre ont estimé bon qu'il était important, n'est-ce pas, d'associer et la culture et la communication. On ne va plus faire le cours sur l'utilité de la communication dans l'action gouvernementale, mais nous pensons que si on a estimé à un moment donné qu'il faut prendre ce gros secteur pour rattacher à la communication, c'est parce qu'on estime qu'il y a des efforts à faire de ce côté et il fallait apporter des contributions. Et c'est ça qui nous a poussé au niveau du Nord Flambeau des démocrates à faire ce dossier. Et nous avons approché des experts à la matière, des cinéastes, des réalisateurs, sur l'état du cinéma au Togo. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Vous avez vu le cinéma au Togo, quand on parle aujourd'hui, ça ne dit pas grand-chose aux gens. Alors qu'en réalité, la genèse même du cinéma au Togo remonte aux années 1800. Ça voudrait dire que ben, aujourd'hui, on devrait prendre une longueur d'avance sur beaucoup de pays. Et vous allez voir que dans ce papier, nous avons essayé dans un premier temps de faire un état des lieux de ce qui a été fait jusque-là avec des grands noms du cinéma que nous connaissons. Quand on parle par exemple de Sanvi, Benoît Luasio,
Jacques Dokoku,
il y a tous ces noms-là qui ont bercé peut-être notre enfant jusqu'à ce jour. Mais au jour d'aujourd'hui, on constate tout simplement que on a des ressources humaines qu'il faut, mais il manque, on va dire, cette politique culturelle-là qui soit à même de porter haut le cinéma togolais. Par exemple, comment on peut comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et en 2024, le Togo n'a pas encore une salle, n'est-ce pas, de spectacle. Ça, c'est d'un. Le seul que nous avions, c'est le Palais des Congrès. Mais depuis quelques semaines, ce site est fermée pour travaux de réhabilitation.
Et il y a aussi les salles de cinéma de Canal Olympia.
Exactement, nous l'avons relevé dans le papier, mais tout sauf que c'est des initiatives privées. Ça, c'est Canal Olympia. Je ne vous dis pas qui en est peut-être le promoteur de ces centres de spectacle, mais l'idéal est que l'État ait au moins une salle de spectacle pour sa population. Les privés vont en rajouter et ça fera l'affaire du cinéma togolais. Maintenant, pour ce qui est de l'industrie cinématographique en soi, elle existe certes, mais elle n'a pas de moyens véritablement pour se donner des airs. Aujourd'hui, ceux qui essaient d'apporter un plus à cette industrie, c'est des mécènes, c'est des privés. Il n'y a pas longtemps, la série Ahoué, par exemple, tout le public togolais était presque émerveillé par la qualité du travail. Il y avait, après, il y avait le tournant, n'est-ce pas, de l'interrogatoire avec cette séquence-là. Tu élèves quoi ? Je t'assure que vous surfez un peu sur la toile. Ça atteint jusque dans des pays anglophones. Mais ça fait parler du Togo. Il n'y a pas longtemps, on a encore sorti une nouvelle production qui va être projetée en novembre prochain. Mais je vous assure que c'est un travail de qualité qui se fait. Alors là, il faut aider justement ces acteurs à faire encore plus. C'est pour cela que nous avons fait, heureusement que vous avez lu, nous avons fait ce diagnostic-là qui est dans un premier temps de relever ce qui a été fait, ce qui reste à faire, et c'est ensemble qu'on pourra apporter un plus à ce septième art togolais qui, on va le dire, est un peu en souffrance actuellement.
D'accord, un peu en souffrance à ce moment. Alors, Jean-Paul Reny, c'est vrai que quand on voit l'état de notre cinéma aujourd'hui, il y a beaucoup de choses quand même qui restent à faire, mais ça ne veut pas dire que rien n'est fait, parce qu'on se souvient, il y a le gouvernement qui a initié depuis 2018 la semaine du cinéma, et c'est des efforts.
Oui, il y a des efforts qui sont faits, mais ma gloire a peint le tableau. Vous savez, le cinéma, c'est pour un pays ce qu'on appelle le soft power. Vous voyez, aujourd'hui, vous savez comment les États-Unis ont fait pour convaincre le monde de la guerre du Vietnam? C'est à travers les films qu'ils produisaient. Rambo, Commando et tout ça. C'est pour dire que le cinéma, en fait, on l'appelle le septième art. C'est un instrument par lequel on peut véhiculer les valeurs d'un pays, véhiculer la vision d'un pays. Un pays peut avoir son hégémonie à travers le cinéma. Et certains pays l'ont compris, notamment le Nigeria aujourd'hui. Entre-temps, avant que le Nigeria ne prenne le pas, vous avez l'Inde. Qu'est-ce qui a fait que les gens ont connu le pays qu'on appelle l'Inde? C'est parce qu'il y avait Bollywood, avec les films indiens qui ont tellement inondé le marché africain, avant qu'aujourd'hui, le Nigeria ne prenne le pas avec les films Igbo. Et aujourd'hui, beaucoup connaissent le Nigeria, tout le monde a envie d'aller parce que on voit dans ces films de belles maisons, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui quand même attirent. Et le Togo devrait emboîter le pas. C'est vrai, quand il y a le fonds d'aide à la culture qui a été mis en place, qui appuie légèrement les cinéastes, mais ce n'est pas encore ça. Il y a de cela deux semaines, il y a le festival des Monts Cabien qui s'est déroulé à Kara pendant au moins 4 jours. Mais je ne vous dis pas comment le promoteur, un jeune Togolais, a fait des pieds et des mains, mais n'a pas eu véritablement le soutien qu'il fallait pour que ce festival puisse vraiment battre, c'est-à-dire avoir le nom qu'il fallait. Ça a été vraiment compliqué pour lui, mais il a eu quelques appuis, notamment à la mairie de Kosa 1 qui l'a appuyé, et puis quelques mécènes. Mais à part ça, le jeune avait de bonnes idées pour promouvoir le cinéma togolais, mais il n'y a pas d'appui. Et je crois que tant qu'on ne va pas vraiment, l'État ne va pas mettre les moyens, notre cinéma, vous voyez, comme l'initiative de Ahoué, ça commence, mais après, ça se plante en l'air parce qu'il n'y a pas d'appui financier. Il faut que l'État appuie pendant un bon temps afin que l'industrie cinématographique prenne de l'essor. Et quand elle prend de l'essor, voilà, ça va aller de soi. Parce que vous dites, parfois il y a des petits documentaires, je vous dis 13 minutes, vous êtes à plus de 15 millions. Vous ne pouvez pas imaginer que ça coûte autant. Et sans appui des autorités, ma foi, ce secteur, on va toujours en parler. Il y aura quelques initiatives, mais ça sera lettre morte.
Alors Michel, c'est vrai que jusqu'à présent, il y a Magola qui le relevait tout de suite, jusqu'à présent, c'est que nous n'avons pas lors de salles de cinéma ou de spectacle digne de son nom. Est-ce que ça veut dire que peut-être la politique cinématographique au Togo est reléguée au dernier plan?
Bon, je ne sais pas. Tout dépend de la volonté politique. Hein. Parce que, Magol le disait, si dans le dernier gouvernement, on a associé à la communication la culture, ça veut dire beaucoup de choses. En principe, la culture est véhiculée par la communication. Et ça dépend de ce qu'on veut. Et ce n'est pas pour sur... généralement, pour ce genre de projet, ce n'est pas... La vision, c'est pour 5, 10, 20, 30 ans. Ça dépend de ce qu'on vise. Et si on vise loin, et si on met les moyens, on peut arriver. Vous savez, dans des pays, ce n'est pas, malheureusement, ce n'est pas le Togo seul, hein, dans des pays comme les nôtres, au sud du Sahara, vous savez que nous avons, on a un problème énorme par rapport à notre culture. C'est-à-dire que nous ne sommes pas nous-mêmes et on n'est pas les autres aussi. Bon, on est au milieu comme ça et on tourne en rond. Or, c'est à partir du cinéma, à partir de la culture que le véritable développement peut être lancé. Il faut d'abord être fier de soi. Ce qu'on est d'abord, être fier de soi. Et c'est en ce moment-là que vous pouvez véritablement envisager un développement, surtout endogène. Mais ce n'est pas le cas. Vous savez, nous avons une autre indépendance, ça fait combien d'années? Nous n'avons pas un palais de la culture pour permettre à nos artistes, à nos réalisateurs d'aller peut-être prester à un coup quand même. Vous parlez de palais de congrès. Ce n'est pas le palais de la culture. Bon, on clandote seulement là-bas, excusez-moi l'expression. Sinon, véritablement, quand vous allez dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, il y a des palais de la culture où les artistes, vraiment, à un coût vraiment abordable, ils peuvent maintenant... C'est une manière aussi de les encourager, de les salles ici, la plupart, c'est des salles privées. Il faut payer, cher. Combien d'artistes ou de cinéastes ont des moyens pour pouvoir accéder à ces... Donc, c'est... Bon, quand vous regardez, bon, vous avez l'impression qu'on veut agir, mais les moyens ne suivent pas. Parce que c'est, quand vous parlez de cet émar, c'est un domaine budgétivore, c'est un domaine qui coûte très cher. Mais si on le fait bien, les résultats à long terme sont bénéfiques pour le pays et pour la nation. C'est pourquoi nous devons encourager les autorités vraiment à, si vraiment on veut relancer ce secteur-là, faire en sorte que d'abord s'appuyer déjà sur l'existant. Parce qu'il y a des gens déjà quand même qui se connaissent dans ce domaine-là, qui sont capables de booster le secteur. Donc il faut recenser tout ça, là, voir dans quelle mesure appuyer le secteur énormément pour que... Je me rappelle quand on était au coup de mer... Au collège, il y avait des théâtres, des contes à la télé. Mais les mercredis, surtout, on ne ratait jamais. Mais depuis un certain temps, bon, on ne sait pas, ça a été remplacé par quoi. Bon, et puis on avance, quoi.
Et puis on avance. Alors, Ambrose, pas une discrétion, nous avons appris que parmi les staffs hein, de tournage en Côte d'Ivoire, il y a toujours des Togolais. Des Togolais qui sont bien compétents en la matière. Et même au Nigeria, avec les films Ibo que nous regardons, il y a des Togolais également qui sont là dans le staff à l'heure de réalisation. Alors, au Togo, comment se fait-il que ces compétences-là, on n'arrive pas à valoriser ces compétences pour que nous, au Togo, nous ayons aussi la taille hein, cinématographique de ces pays?
Bon, d'abord, je me pose la question, qu'est-ce qui marche au Togo actuellement? Dites-moi ce qui marche au Togo.
Pas rien ne marche.
Bon, je commence par le football. Vous en savez autant que moi. Je vais au volleyball. Si ce n'est pas Noël Tadeno qui se démerde dans les eaux du Mississippi.
Il fait sa part.
Il fait ce qu'il peut. Le basketball. Moi, je me rappelle avoir vu les matchs de Chalouz ici. Je suis un basketteur aussi, hein, avant d'être un footballeur.
Au moins, le Maracana marche.
Le Maracana, c'est une chance. Ça dit que c'est le miracle. Maintenant, dites-moi là, qu'est-ce qui marche au Togo? Pour vous dire que les gens se battent avec leurs compétences, avec leur intelligence, pour faire fonctionner, pour faire émerger un domaine. Mais ils n'ont pas de soutien. Je ne sais pas si c'est une malédiction. C'est-à-dire que même, arrivant à un moment donné, certains ministres s'efforcent à ce que, au moins, leur nom aussi soit collé à quelque chose, en faisant tant et tant. Mais j'ai compris aussi que, quand tu es ministre, tu veux émerger dans ton secteur d'activité, ce sont tes propres collègues, c'est l'impression que j'ai, hein. Ils te mettent des bâtons dans le rue. Pas forcément ceux qui sont dans le gouvernement, mais des gens qui aussi voudraient dans le gouvernement, ils ne sont pas dans le gouvernement, ils peuvent même aller enterrer des bœufs vivants pour que toi, tu sois capoté. C'est juste une métaphore que je suis en train de présenter et qui nous renvoie la balle. En ce sens que c'est comme si tu t'es maudit, quoi. Tu t'es maudit. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller chez moi, aller voir les prêtres vaudous. C'est vrai, ils ont fait la prière musulmane et protestante pour que les réfugiés gagnent l'Algérie. Je ne veux pas dire quelque chose ici pour moi qu'on le prenne comme un oiseau de mauvaise augure. L'Algérie, je parle bien de l'Algérie. C'est juste un exemple que je donne. Et donc, mon chef, Kokoua Gbemadon, qui était à la TVT, qui est parti à la retraite, il est producteur, il est chef de la production là-bas, il est réalisateur. Il y a des dames à la TVT là-bas. Il y a Edo dont vous parlez, qui a 15 ans, qui a réveillé le cinéma togolais. Il y a Steve Aff. Steve Aff, avec un de ces films-là que j'ai vu jeudi.
Chérifa, vous voulez dire
Chérifa.
C'est pas un togolais qui a... On dirait que c'est pas un togolais qui a réalisé ça. Le cinéma, c'est l'argent. C'est des millions, c'est des milliards. Vous prenez un film comme Indiana Jones et le Temple Maudit. C'est l'un de... depuis ma naissance, si on me dépose deux films ou trois films à sélectionner, c'est l'un des films qui m'émerveille toujours, même après plus de 40 ans que ce film a été fait par Harrison Ford. Pour vous dire que le Togolais n'est pas obligé de ressembler à Harrison Ford. Le Togolais, c'est l'Américain là qui a réalisé plein de films. C'est-à-dire que Stephen Aff, par exemple, qui était un jeune, on pouvait le valoriser.
Les compétences sont là.
Pas forcément le gouvernement. Hein. Il y a des gens qui ont de l'argent dans ce pays. Bon, ça aussi, notre problème, c'est que les milliardaires, les millionnaires, c'est des politiques. Ce ne sont pas des entrepreneurs. Contrairement au Nigeria, au Ghana et ailleurs. C'est-à-dire que hier, même à Cotonou, on me causait la dernière fois, et au Mali, des jeunes sont dans des entreprises qui fleurissent quoi. Personne ne... Le pouvoir, malgré militaire et dictature, ne les regarde pas. Ce qu'il faut pour faire émerger le pays, c'est ce qu'il y a des gens qui peuvent financer le cinéma. Parce qu'avec les réseaux sociaux, ça marche. Hein. Il suffit que vous injectez 500 millions. Il y a des jeunes qui sont talentueux, qui sont sur TikTok, quand tu les vois. Mais tu vas dire, mais c'est les jeunes qui ont réalisé ça. Il y a un Nigérien que je vois souvent, et hop, son nom m'échappe. Quand je vois tout ce que je vois, il publie, je dois rire jusqu'à pleurer. C'est-à-dire, moi, ça me suffit largement, quoi. Mais il y en a plein actuellement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que soit l'État commence à financer le cinéma, sélectionne les meilleurs, si au moins on trouve ces cinq, que la personne soit âgée de 80 ans, s'il est un bon réalisateur, qu'il soit âgée de 15 ans, ou qu'elle soit âgée de 15 ans, qu'on finance, que l'État débloque un fonds peut-être de 10 milliards consacré à la culture, 3 milliards au cinéma, parce que le cinéma est plus coûteux que tout, et les autres secteurs, la plastique, il y a encore quoi, la musique, on les jette aussi 1,5 milliard. Je crois que ça, là, chaque année, on débloque ça et on fait ça de façon visible que tout le monde voit. Parce qu'on vote la chose, mais l'autre chose aussi, une chose c'est ça, l'autre chose c'est que il y a aussi des bitouzas qui tournent autour. Il y a des bitouzas qui tournent autour. Et donc, moi, je me dis que le cinéma est là, le 7e art est au sommet actuellement. Hollywood prend maintenant le dessus de Bollywood, même au-dessus de Hollywood. Donc, si Hollywood, si moi je fais l'abonnement des fois, soit sur Canal+, il y a ce que mes enfants et ma femme aiment voir, c'est quoi? C'est Hollywood. On a les films nigériens, surtout traditionnels. Ah, ils adorent ça.
D'accord.
Et donc, d'accord. Que l'État injecte des fonds, sensibilise les entreprises, les sociétés, aussi, et faire comprendre aux sociétés, vous aussi vous aurez à gagner votre part. Expliquer clairement et que ces réalisateurs-là viennent sur les médias parler de ce que ceux-là qui financent le cinéma peuvent aussi gagner.
D'accord. Magla ?
Oui, je crois que Ambroise a touché un point essentiel, c'est qu'il faut maintenant que l'État décide de porter vraiment le secteur de la culture au Togo. Parce que, voyez-vous, la qualité humaine, on en a. Vous-même, vous avez évoqué le cas de certains réalisateurs, certains cinéastes togolais qui émergent ailleurs. Mais pourquoi ne pas capitaliser toute cette compétence-là au profit, justement, de l'émergence de l'industrie culturelle au Togo? On peut le faire si on a la volonté. Voyez, tout ce qui se fait au jour d'aujourd'hui, on a parlé d'Ahoué, je ne sais pas. Les réalisateurs, il y en a déjà, Madame Akereburu, Julio Teko, Stephen Harve, ça c'est les gens de la jeune génération.
Et ils sont compétents.
Très compétents. Je vous dis, il y a actuellement une autre réalisation, Le fabuleux destin de Djalila.
Avec de Michel Diane.
Michel Diane, je vous assure, j'ai assisté l'autre fois, ne serait-ce que au lancement de cette production, je vous assure, vous allez vous croire, n'est-ce pas, dans un environnement américain. Mais ça reflète, n'est-ce pas, la créativité locale. Un tournage qui a été fait de Lomé jusqu'à Dapaon. Je vous dis, la productrice parlait, ou du moins son équipe parlait d'au moins 200 millions investis là-dedans. Mais je me dis, mais un individu peut le faire pour un film, pour deux films, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est pour ça qu'il est important que ça soit maintenant l'affaire de l'État. Maintenant, ce qui est salutaire, c'est qu'on a associé la culture à la communication. Et je présume que c'est pour ouvrir peut-être la voie de la TVT au film, aux productions locales. Parce que la seule production qui émerveille jusque-là, Badamassi, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est disparu sur les radars, enfin les écrans de la télévision nationale. Uh-huh. Il faut qu'on trouve solution à ça. Uh-huh. Oui, oui.
D'accord. Merci. Il y a Ambroise qui posait la question de savoir qu'est-ce qui marche au Togo. Mais ce qui est sûr, il y a déjà le rapport Redi qui nous démontre plutôt le contraire, qu'il y a quelque chose qui marche au Togo. Alors, Michel, vous titrez sur ce rapport. Rapport B, Redi, belle performance, le Togo fait fort avec fort. Le premier fort, c'est bien F-O-R-T, et le deuxième fort, c'est F-A-U-R-E. Alors, autre journal qui parle bien sûr alors de ce rapport, c'est Tribune, la nouvelle Tribune de Elom Atisogbe, qui n'est pas avec nous ce matin. C'est bien la nouvelle Tribune qui écrit rapport Biredi 2024 de la Banque mondiale, le Togo confirme. Et chronique de la semaine aussi, titre sur le sujet. Premier rapport Business Ready, le Togo occupe le premier rang des pays réformateurs en Afrique de l'Ouest. Le journal Togo Matin qui titre aussi sur le sujet Business Ready 2024, cadre réglementaire, services publics et efficacité, l'entrepreneuriat a le vent en poupe au Togo. Alors, Michel, on comprend tout simplement que, alors, il y a beaucoup de... il y a au moins ce qui concerne alors ce rapport. Il y a quand même alors des performances que le Togo engrange.
Ah oui, il faut... Même si nous vivons des difficultés, cela ne veut pas dire que rien n'est fait. Il y a des choses qui se font au quotidien. Peut-être les résultats ne sont pas encore palpables dans les marmites. Mais nous osons croire, puisque à chaque fois, on a toujours posé cette question. Comment se fait-il qu'on parle de croissance et qu'on n'a pas les résultats on ne sent pas les résultats dans le panier de la ménagère. Mais nous a toujours répondu que il y a les agents de notation qui sont là, qui font leur travail, mais que les choses ne sont pas aussi automatiques, c'est au fur et à mesure. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que si vous étiez là le lundi à la salle Evala de l'hôtel de février, la ministre, secrétaire générale de la présidence, a été claire, formelle. Au départ, il y a des pays qui n'ont pas voulu se faire examiner. Il y a des pays même occidentaux qui n'ont pas voulu. Mais le chef de l'État a dit, prenez le Togo, qu'on vienne voir qu'est-ce que nous faisons. Il a accepté, parmi les 50 pays, le Togo fait parmi les 50 pays, on s'est rendu compte que en Afrique de l'Ouest, vous avez le Togo, occupe la première place comme pays réformateur. Et dans la l'espace sud du sud du Sahara, le Togo occupe la troisième place. C'est pour dire que progressivement, il y a des choses qui se font. Et le secteur privé a été cité comme un moteur dans la réalisation de ces progrès-là, de ces belles performances. Ce n'est pas par hasard que le patron a été invité,
a été associé.
Donc, et la ministre secrétaire générale de la présidence a bien dit que au Togo, le secteur privé est un pilier central. Et c'est pourquoi il y a un partenariat secteur public-secteur privé qui permet de faire les réformes à tout moment pour que les secteurs clés qui ont été en tout cas identifiés, que ces secteurs-là soient évalués d'une manière transparente. Et aujourd'hui, ce n'est pas le Togo. Ce qu'il faut relever, ce n'est pas le Togo qui s'est noté. Hein. Il y a des agences de notation, notamment la Banque mondiale. C'est ces agences-là qui ont vraiment noté les pays. Et on s'est rendu compte que le Togo occupe la première place dans la sous-région.
D'accord.
Ce qui est à saluer. Maintenant, on attend de voir sur le terrain si ça peut se transformer en résultat concret pour le panier de la ménagère.
D'accord. Alors, en vrai, c'est vrai que quand on prend le journal Le Changement qui titre aussi sur le sujet classement du Togo à la tête alors des pays réformateurs en Afrique et de l'Ouest, des réalités en contradiction avec le rapport BIREDI 2024.
Merci au Changement. Merci beaucoup au Changement dans le Mangement, comme Daniel aime l'appeler. C'est ce que il y a un contraste entre ce qu'on nous présente souvent du bling-bling au niveau de la présidence, secrétaire général, le Blamba Johnson, tout ça là. Moi, ce n'est pas ça qui me préoccupe. C'est ce qu'on ressent dans la pratique. On nous présente trois piliers, le cadre réglementaire, les services publics et l'efficacité opérationnelle. Ça, c'est dans le cadre même des réformes, une évaluation de l'environnement économique des entreprises. Regardez les petites entreprises qui ont fermé à cause des taxes. Je ne vous cache rien. Quand vous allez à la pharmacie, les médicaments qui coûtent 1 700 francs sont revenus à 2 600 francs. Quand vous leur demandez, c'est les taxes, c'est les impôts. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas espérer mieux en termes d'impact sur la vie des populations, des citoyens, avec l'élargissement de l'assiette fiscale. Surtout sur les produits essentiels des populations. Que ce soit au niveau des denrées alimentaires, certains qui pensent par le poids, par exportation, par importation, et d'autres qui sont ventilés, qui sont vendus par les commerçants liés à leur entrepreneuriat. C'est toujours les taxes et les impôts. Les gens ne peuvent pas s'en sortir. Mais il y a un médicament que moi j'achète souvent à l'une de mes vieilles, qui est d'ailleurs décédée le lundi. J'y suis allé, le médicament, ça fait combien? 1200 francs qu'on a ajouté. Dans moins de quelques semaines, j'ai dit, mais ça n'a pas de sens. Même il y a certains antibiotiques qui ont pris 400 francs, 300 francs, et pratiquement beaucoup de médicaments. Mais comment voulez-vous que le Togolais s'en sorte? Ce qui veut dire simplement que ce sont des chiffres, des fois mirobolants, qu'on nous vend, je ne sais pas si, parce que j'ai appris aussi que les gens vont même payer cher, acheter ces rangs-là. C'est moi qui le dis, hein. C'est-à-dire que les gouvernements achètent. Je ne dis pas que c'est le Togo, c'est possible pour le Togo, c'est parce qu'on connaît ici. Les gens vont acheter des rangs mirobolants. Nous sommes premiers, vous êtes premiers, d'accord.
À quelle fin?
À quelle fin, justement, pour pouvoir bénéficier des prêts, des institutions de finances multilatérales ou bilatérales. Parce que quand on voit que tel. Parce que c'est le Dream Business qui a changé de peau, hein, quand tu lis bien, tu comprends que c'est le Dream Business. Et quand c'est le Dream Business, là, comme le DSP, le SCAC a changé en PND, qu'on a enterré avec le marbre, actuellement, c'est le Dream Business qui est en train de jouer au caméléon, qui a pratiquement changé. Parce que le Dream Business que la Banque mondiale nous a vendu n'a pas marché. Donc, il faut que ces businessmen, ces showmen-là qui viennent tromper le gouvernement ici, là, il faut qu'ils s'habillent encore un peu pour pouvoir soutirer des fonds. D'accord. Et là, c'est nous qui perdons.
D'accord.
C'est ça, la réalité.
D'accord. Jean, c'est vrai que vous avez titré sur le sujet, Canal D, vous avez titré sur le sujet, climat des affaires, rapport Biredi, le Togo dans le top 3 des pays les plus réformateurs d'Afrique. Alors, pays réformateurs d'Afrique, mais est-ce que ça se sent? On a l'impact?
Oui, ça, c'est tout un autre débat, parce que, vous savez, il faut préciser, comme Ambroise l'a dit, ce rapport, au fait, le Biredi, la nouvelle version du Doing Business, et le Doing Business, vous savez qu'il a été attaqué, critiqué, parce qu'on se disait qu'il n'y avait pas véritablement de transparence, qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas dans les normes, notamment certains pays, on a parlé de corruption. Et sur cette nouvelle forme de rapport, il n'y a que 50 pays qui ont accepté, dont 14 pays africains, il faut le préciser. Donc c'est sur 14 pays africains que le Togo est troisième, notamment avec, avec plusieurs indices. Nous, à notre niveau, après analyse, on se dit c'est bien vrai qu'il y a des réformes qui sont faites, les réformes, on ne peut pas les nier. Et c'est la Banque mondiale même qui évalue ces réformes. Ils ont évalué qu'il y a un travail qui a été fait. Maintenant, du travail qui a été fait à ce qu'on arrive à la matérialisation dans le panier de la ménagère, dans le quotidien des Togolais, c'est là où il y a un petit souci. Et aujourd'hui, beaucoup se posent la question de savoir, vous titrez dans vos journaux que le Togo est le premier dans tel domaine, indice humain et tout ça, mais pourquoi dans notre quotidien, on ne sent pas ce changement? À cette question, moi, je n'ai pas de réponse. Je ne peux pas, parce que je ne suis pas technicien. Je ne peux pas, normalement, expliquer qu'est-ce qui peut amener, quelle est la corrélation directe entre le climat des affaires et pourquoi chez nous, ça ne marche pas. Entre-temps, on avait parlé de...
En matière de chiffres, ça marche.
En matière de chiffres, maintenant, ce que je veux dire, en matière de chiffres, maintenant, la corrélation dans le changement du quotidien du Togolais, ça se fait désirer jusqu'aujourd'hui. Et c'est la semaine dernière que nous avons été témoins d'une scène surréaliste sur un dépotoir à Gwenivé 2. Mais pour un pays réformateur, un pays où on dit que presque tout marche et que des populations se retrouvent à aller sur un dépotoir. On n'est pas en zone rurale, hein, nous sommes en capitale. Aller chercher du riz avarié. Ma foi, il y a des questions à se poser. Et c'est là où nous disons, c'est vrai qu'au-delà de ces réformes, c'est vrai, ça nous donne de l'embellie sur le plan international et tout. Le Togo est bien coté, c'est vrai, avec les institutions financières, on peut avoir des prêts, on peut avoir beaucoup de choses. Mais le quotidien même de Togolais, il faut que les autorités vraiment se penchent dessus. Et moi, je dis que ça doit questionner véritablement les projets sociaux que le gouvernement met en place. Si depuis des années, le chef de l'État fait des efforts, on annonce beaucoup de choses. Si aujourd'hui certains Togolais se trouvent à l'issue des dépotoirs, c'est dit qu'il y a un problème quelque part. Il faut véritablement analyser ces projets-là et voir qu'est-ce qui a marché de qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que c'est facile de dire oui, on a lancé tel projet, mais le chef de l'État doit peut-être avoir des émissaires qui vont s'immiscer au niveau du bas-peuple pour essayer de comprendre. S'il n'y avait pas eu cette situation sur le dépotoir, mais les gens ne sauraient pas que vraiment la misère et la pauvreté ont atteint un certain niveau.
D'accord.
Mais donc, il faut qu'aujourd'hui, nos autorités, au-delà de ces chiffres, on ne peut pas dormir sur nos lauriers, dire que voici, on a tel. C'est bien, on se félicite.
Mmh,
mais d'accord. En même temps, il faut aller à la base.
D'accord.
Essayer de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans nos projets pour que l'image écornée là que nous avons envoyée la semaine dernière soit corrigée.
Merci beaucoup, Jean. Alors, Magloire, au regard de ces chiffres, on pourra estimer qu'il fait bon vivre au Togo. Et parce que quand on voit les chiffres, nous sommes parmi les pays réformateurs et tout. Mais attends, quand on prend les indicateurs par rapport même d'ailleurs à ces chiffres et aussi par rapport à la réalité du Togolais, finalement, est-ce qu'il n'y a pas alors de lien direct avec ces indicateurs? Je veux bien parler alors de la réalité.
Non, mais vous savez, Pascal, moi, ça fait depuis un bon bout de temps que je ne crois plus à ces classements. Sincèrement, je vous le dis. Pas que je ne veux pas croire, mais je ne crois pas. Parce que c'est les mêmes institutions, par exemple, du business, combien de fois on n'a pas créé de tintamarre autour des rapports de business. Mais vous et moi, en tant que journaliste, on a assisté stupéfait enfin, à l'information selon laquelle ce rapport était truqué. Il y a presque 2 ans, je crois.
Je me souviens, bien
sûr. Ah oui, et jusqu'à ce qu'on ne sursoit même provisoirement, je crois que c'est fini même carrément,
c'est fini.
Ce rapport d'une business. Alors que moi, en tant que journaliste, je croyais fermement jusqu'hier à ce rapport. Quand on dit le Togo est classé, quelième, mais j'étais fier. Mais c'est les mêmes personnes qui nous disaient, mais les amis, nous sommes désolés, on sursoit à ce rapport définitivement parce qu'on constate qu'il y a trucage, il y a corruption là-dedans. Ça voudra dire qu'en réalité, si A n'est pas crédible, qu'est-ce qui prouve que B sera crédible? Et c'est pourquoi, moi, personnellement, je ne crois plus en ces classements, en ces rapports. Moi, ce que je sais, si le Togo va bien, c'est les Togolais qui sont à même de dire si le pays va bien ou pas. Moi, honnêtement, le chauvinisme m'amène à me... je sais pas, à me satisfaire de toutes les prouesses que le Togo fait partout. C'est pourquoi peut-être le Togo a match ce soir. Beaucoup disent que ben, le Togo face à l'Algérie, il n'y a pas match. Mais moi, je continue toujours pas à croire. Parce que je suis Togolais. Je veux voir mon pays gagner. Et c'est pour ça que je dis, quand c'est bon, on le dira clairement que c'est bon. Mais là, là, quel crédit moi je peux accorder? Je ne dis pas que le Togo ne fait pas des efforts, mais de vous à moi. Quel crédit je peux accorder à un tel rapport qui vient de l'extérieur? Quand il y a 3 jours, les Togolais cherchaient du riz entre bagarres et tout ça sur un dépotoir.
Mais est-ce que là, ce n'est pas un fait isolé?
C'est un fait isolé, mais c'est un indicateur clé aussi. Si nous-mêmes, on veut faire un rapport sur notre pays, je crois que ça va être différent de ce qu'on nous a présenté. Ah oui? Et donc, c'est pour ça que je dis, je veux bien croire, mais il y a de ces éléments d'appréciation qui m'amènent à être dubitatif. Maintenant, l'autre fait, c'est dans la communication de ces rapports. Mais moi, j'estime, tout à l'heure, Jean disait quelque chose de très intéressant. Je dis, mais pauvre de nous, journalistes togolais, on nous appelle, on nous expose un rapport, d'accord, mais nous ne sommes pas des techniciens. On n'a pas les outils nécessaires pour apprécier la qualité du travail qui a été fait. On communique juste. Mais sauf que journalistes que nous sommes, ici on en parle, mais les auditeurs bientôt vont rentrer en ligne. Dans nos maisons, dans nos quartiers, on nous appelle, Fofovi, tel rapport dont vous parlez, qu'est-ce qui a pu motiver cette performance au Togo? Tu vas quand même pas bégayer. Tu vas dire, ah, on mange. Bon, je suis journaliste, j'ai juste dit. Alors qu'on n'est pas convaincu. C'est pour ça que moi, je dis, la communication même pose problème. Pourquoi la présidence de la République, en tant qu'une institution de la République, ne délègue pas quelqu'un qui se pointe sur les médias avec les arguments nécessaires pour convaincre les Togolais? Pourquoi on veut que c'est nous qui le disions? Pourquoi? Alors que nous ne sommes pas des techniciens.
Ce n'est pas notre rôle.
Non, au-delà même, voilà. On peut organiser une conférence avec les hommes de médias. Comment tant ça a été fait pour l'IDH?
Ça s'est fait
lorsqu'il y avait un rapport sur l'IDH. Mais malheureusement, notre média n'avait pas été invité. Et on peut le faire également pour le Buridi. Pour quand même essayer d'expliquer les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qui est concrètement, sur quel point, à quel niveau, comment on peut... on peut expliquer cette corrélation-là. Nous qui sommes des médias, parce que, vous savez, c'est à nous que les citoyens s'adressent. Hein. On se dit que le journaliste est l'homme qui connaît tout.
C'est l'impression.
Pourquoi? Mais nous, on peut expliquer quoi? Mais il faut au moins qu'on ait une conférence, qu'on invite tous les journaux, on connaît les journaux qui paraissent.
Mais moi, l'histoire de Abraham Johnson, personne ne m'a jamais invité. Je ne me plains même pas. Oh. Mais ce que je tiens à dire, c'est que la réalité, c'est que c'est le gouvernement togolais qui donne les chiffres à ces histoires de green business et de réduire l'histoire. Mais là, quand on les donne là, eux non plus ne viennent pas vérifier si, par exemple, le riz qui a été déversé sur le dépotoir et là-bas, combien de personnes sont allées et piocher ça, et si disons, jamais on déversait sur plusieurs dépotoirs.
Non.
On va voir le nom de l'eau. C'est juste une illustration.
Pascal,
le moment où on dénonçait d'une business dans ce pays, c'est ce cirque-là. Les gens nous prenaient comme... on pensait qu'on diffamait d'une business. Qu'est-ce que d'une business est devenu? Qui s'est présenté encore devant les médias pour vous dire que Jim Business est arrivé, c'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi je vous dis que Jim Business a disparu. Donc il faut le réhabiller, autrement, c'est ce qu'on appelle le dit.
Comment
on
appelle le dit? Le dit,
voilà, c'est ça.
Oui, Michel.
Je pense que pour ceux qui étaient à la rencontre de lundi, il y a des confrères qui étaient là-bas qui ont posé des questions pertinentes. Si je me rappelle bien, il y a quelqu'un qui a demandé, mais ces réformes-là, à quand les réformes à visage
humain.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, le confrère voulait comprendre et pourquoi on parle de pays réformateurs, mais que les populations ne sentent pas à la base. Quelqu'un a dit, mais la justice togolaise, cette justice qui est décriée...
Règlement de litige.
Mais on a donné une explication que ce n'est pas tous les secteurs de la justice, c'est le tribunal du commerce. Et c'est à ce niveau que beaucoup de litiges ont été réglés et les agents de notation ont tenu compte de tout ça là. Ce que je voulais concrètement placer, c'est dire que nous tous, nous vivons des difficultés. Mais dans la gouvernance d'un État, ce n'est pas aussi simple que nous pensons. Il y a des choses que nous, journalistes, nous ne maîtrisons pas. La gouvernance dans la gouvernance, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et peut-être à des occasions, notamment d'information, j'ai toujours dit, quand on prend le budget, ce n'est pas tous les journalistes qui savent lire le budget. Exactement. Il faut des séances de formation.
Ça, une conférence de presse, pour moi, ça ne veut rien dire.
Oui, des ateliers de formation pour nous apprendre à lire.
Les chiffres.
Nous donner les outils nécessaires.
La dernière fois, on nous a donné l'information. Maintenant, il nous revient, parce que le jour-là, peut-être Magor n'était pas là, le jour-là, on nous a aussi accusé de ne pas aller vers l'information. C'est à nous d'aller chercher l'information. Dans tous les cas, c'est que dans la gouvernance, il y a les partenaires bilatéraux et les partenaires multilatéraux. Il y a des choses qui se font là-bas que nous ne sommes pas à mesure de comprendre. Mais nous faisons l'effort par rapport à ce que nous a servi de regarder. C'est pourquoi les questions étaient posées là-bas. On n'est pas venu nous donner le rapport là comme ça. Et puis chose. Les gens ont eu le temps de poser des questions. Et c'est sur cette base que certains ont fait des papiers.
Mais Michel, il est important, tel que Magloire l'a dit tout de suite, que les techniciens, même d'ailleurs, de ces chiffres aussi, viennent sur des médias pour expliquer de fond en comble.
Ils nous écoutent, je suis sûr.
Justement.
Mais je suis sûr qu'ils nous écoutent, au-delà du travail des journalistes, que des techniciens,
tout à fait,
quand même, prennent le micro.
Oui.
Explique davantage.
Tout à fait.
Sinon, on va penser que nous sommes des charlatans, des magiciens.
C'est nous qui inventons
alors que nous n'avons rien inventé.
D'accord. Merci beaucoup, Michel. Merci, chers confrères. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs qui s'impatientent, bien sûr, à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous, puisque c'est le principe de l'émission. Nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs. Juste après, nous allons leur donner la parole.
13.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour.
Un homme.
Allô? 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, papa.
Bonjour.
Papa Sardinet, bonjour.
Oui. Oui, comment vous allez?
Ça va, et chez vous?
Ah, Dieu merci.
D'accord.
Vraiment, pour les classements-là, on en a marre. Toujours, on nous dit que le Togo est passé le premier sur une région, mais rien ne change dans le pays. Et puis, comment voulez-vous qu'on croit à tout ça-là? Mais ça, tout ça, c'est connerie. Hein. Bonne journée.
Allez, bonne journée à vous aussi. 90, 86, 37, 35, on ne va pas dire que c'est des conneries quand même. Allô?
Allô, bonjour Canal FM.
Bonjour Nestor, comment vous allez?
Oui, je vais bien.
D'accord, allez-y.
Oui, je vais encore intervenir par rapport au classement. Donc, déjà la Banque mondiale, nous si on fait des recherches, 80 ans après les accords de Bretton Woods, ces institutions sont déconnectées des réalités économiques et changeantes. Puisqu'il y a un accord qui existe, un accord informel, c'est un européen qui doit diriger le FMI et un Américain qui doit être à la tête de la Banque mondiale. C'est clair que les Occidentaux ne veulent pas renoncer à leurs privilèges. la question pourquoi certains pays, surtout occidentaux, n'ont pas voulu faire partie de l'enquête, selon ce qu'a dit le journaliste sur le plateau. Donc, et le politologue Emmanuel Higa, il a dit l'une des causes de l'inflation, c'est la charge du remboursement des prêts de la Banque mondiale et de ses intérêts lourds qui amènent le gouvernement à augmenter les taxes et les impôts. Et pour finir, s'il vous plaît, ce sont des gens qui prennent des billets d'avion classe business, qui font des banquets entre la bourgeoisie et qui sont déconnectés de ce que vive la population. Merci, Canal FM.
Merci, Nestor, pour votre intervention. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, Papa Sibiti.
Bonjour.
Allô? Allô? Oui, bonjour, Papa Sibiti.
Bonjour, mon directeur.
Comment vous allez?
Bonjour pour le plateau. Vous savez, il y a un problème, je voudrais le porter à votre attention. Vous êtes nos enfants. Nous voulons que vous sortiez et que vous reveniez. La liberté d'expression, vous l'avez dit, on l'a obtenue. Peut-être certains diront en partie. Sinon, ce que vous êtes en train de faire là-bas, avant que vous ne sortiez, c'est des chars qui vont vous barricader. Et aujourd'hui, vous êtes sûr. Et quand quelqu'un rentre, il a la ligne, il veut parler, il veut s'exprimer, je vous prie, j'ai été enseignant, la morale, nous la faisons de 7h30 à 7h45. Et aujourd'hui, les gens parlent mal. Si vous voulez parler d'un président, nous lui devons beaucoup de respect. Parce que tant plus qu'on dit, c'est lui aujourd'hui. Hein. Il demande que ce Togo soit écrasé aujourd'hui. Ça se fera. C'est après que les gens de droits de l'homme là reviendront pour dire ceci, ceci. Le président ne me connaît pas. Je ne le connais pas. Mais c'est notre président. Quand il s'agit de films, de cinéma, c'est vrai. Vous savez, chacun arrive et il part avec. Au moment où il y avait le président Yadema, vous avez les actualités togolaises. Et le directeur de la Syriato, c'est M. Belou, c'est M. Claude. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, je ne sais pas. Mais, de grâce, pardon, si c'est le président, notre président, les ministres, l'autorité, vous avez vu ce qui s'est passé, même les entreprises. Certaines ont disparu parce qu'ils veulent faire cogner leur front contre. Merci beaucoup.
D'accord, merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre intervention.
Allô?
Oui, bonjour, Monsieur Gado.
Ah, je vous dis, bon, je salue le plateau.
Oui, le plateau aussi vous salue.
D'accord. Vous voulez nous faire comprendre ou bien non, c'est pas comme ça. Bon, on peut comparer le rapport de Dini Business avec les rapports de nos élections, par exemple. Sinon, tout n'est pas clair au Togo. Pourquoi le rapport est mal préparé? Expliquez-moi, merci, bonne journée.
Bonne journée, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club. Allô? Il est parti, 90, 86, 35, 35. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Bonjour, mon grand frère.
C'est Monsieur Kossi?
Benoît Dagoué.
Ah, c'est Benoît plutôt.
Bon, pardon. Oui, je salue le plateau.
Oui, le plateau aussi vous salue.
Je ne sais pas pourquoi vous êtes étonné des rapports. Pardon. Il y a le Togo dans Togo. Le président, son excellence, le président Paul Nyasinghe l'a dit, il y a une minorité qui se sent accaparée des gains du pays. Il y a une minorité qui se sent accaparée du pouvoir. Et il y a aussi une minorité qui se sent accaparée du parti de l'opposition. Et maintenant, la grande partie, nous sommes 8 millions. Et si on dit que le Togo est premier, troisième, c'est les grands. On s'en fout de nous. Vous savez, même la police, il s'est trompé de lieu d'un parti politique. On voit que la majorité, qui ont 4 millions, qui que nous sommes là, le peuple togolais même, qui ne voit pas, on jette le riz. On va là-bas, personne ne dit rien. Et aussi, pour terminer, je vais dire, Madame Brigitte Adamagbo demande une enquête internationale. Moi, nous sommes fatigués. Et si, par exemple, fait, comment je vais dire, j'ai oublié. Bon, je vous souhaite bonne journée.
Merci beaucoup, Monsieur Benoît, depuis Agoué. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, Papa Sibiti.
Je reviens.
Oui.
Vous êtes des étudiants de haute classe. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Et Hitler entre à Prague. La Prague, vous la connaissez. Hitler s'est présenté, il a demandé à ses gens, à ses militaires, que lui rentre. Il veut voir la carte de Prague. Mais ça veut dire le message, il faut nettoyer Prague. Et c'est ce qu'on a fait pour le lui présenter. Certains me diront que je suis tel, mais ce que nous avons vu, nous devons vous former pour que vous preniez conscience de votre vie. Vous êtes très cher. Vous sortez, il faut que vous reveniez. Merci beaucoup.
Merci, Papa Sibiti, pour votre intervention.
Allô.
Oui, allô, bonjour, Madame
Messi. Allô, bonjour.
Madame Messi, bonjour. Oui, allez-y.
Oui, vous avez parlé de la culture,
oui,
du 7e art et tout. Le cinéma, quoi. Le cinéma qu'on nous fait aussi. Bon, dès que la politique ne va pas, rien ne va. La culture, 7e art ou pas. Et puis l'éducation, la santé, rien ne va, tout stagne. Et je voudrais demander à mon frère là-bas, où s'en est avec le FIF? Le FIF, il y a eu le FIF, c'est-à-dire le Festival International des Films Environnementaux. Ça s'est passé à 2 éditions il y a, je sais pas, il y a 4-5 ans, 6 ans, je pense. Où s'en est, s'il a une idée, parce qu'on fait partie des jurys. Et c'était un bon truc, mais bon, comme la politique bloque tout, et puis voilà, c'est parti comme ça. Et puis vous êtes, maintenant le Togo est premier en tout. Doing business par-ci, les prouesses, vous avez parlé des prouesses des gouvernants, et puis voilà, tout, ils font tout bien, quoi. Et ça dénote que nous sommes dans un... dans une dictature que tout est premier. Alors que le pays est ruiné, on vit en léthargie, on n'a rien, on est appauvri. Donc il faut arrêter ça. Nous, on veut avancer, on veut alterner pour avancer. C'est pas normal qu'on bloque une république durant des décennies. Pour que personne ne dise rien, on est là à jouer à l'hypocrisie.
D'accord.
Non.
Merci beaucoup, madame. Merci pour votre intervention. Je pense que vous êtes la dernière pour le compte. Alors, de cette émission de ce jeudi, chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Alors, Magola, je voudrais quand même que pour ce tour de table, qu'on s'intéresse au match Togo-Algérie qui nous attend, bien sûr, ce soir. C'est à partir de 19h en Algérie, bien sûr.
Oui, le Togo va jouer donc son troisième match dans le cadre des éliminatoires pour la CAN 2025. Et vous savez que les deux premières sorties du Togo ont été sorties par deux matchs nuls, au goût peut-être de défaite pour certains, mais salvateur pour d'autres. Et donc aujourd'hui, face à l'Algérie, c'est vrai que, comme je le disais tantôt, pour beaucoup d'observateurs, il n'y a pas match. Quand on voit le classement de l'Algérie, que ce soit au plan mondial ou africain, le Togo est vraiment derrière. Mais quand cela ne tient, ça fait quand même 3 CAN qu'on n'a plus participé, et le Togo n'a plus droit à l'erreur. C'est pour ça justement que aujourd'hui, il faut du soutien national pour envoyer des ondes positives à ces jeunes-là qui se battent. Sur 6 points, au moins, s'ils ramènent de l'expédition algérienne un match nul pour gagner à Lomé mardi prochain, ça donnera un souffle nouveau à cette équipe, à cette volonté, n'est-ce pas, et du nouveau staff technique, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est Nibombé Daré qui est là. Il a besoin aussi, n'est-ce pas, de montrer l'expertise locale dont on parlait. On a des expertises locales, on en a plein dans tous les secteurs, mais encore qu'il faut les porter pour leur permettre de s'éclore.
Jean, les épéviers ont besoin des ondes positives, hein?
Bon, est-ce que les ondes positives vont jouer le match? Je ne saurais le dire. Mais nous espérons tous qu'un miracle puisse se produire.
et que le Togo puisse vaincre l'Algérie. Parce que...
Comment vous ne comptez pas sur l'équipe nationale pour vaincre l'Algérie?
Non, ce n'est pas que je n'ai pas confiance en nos éperviers, mais les deux premiers matchs de Nibobé Daré nous ont prouvé à suffisance qu'il y a une situation bizarre qui se produit et toujours on fait un match nul. Du coup, pour ce troisième match, vraiment, nous demandons à Dieu de faire en sorte que les éperviers puissent avoir la première victoire sous Nibombé Daré. Vraiment, ça va apporter une certaine joie à ces Togolais qui, ma foi, certains qui sont tristes avec les événements que nous avons ces derniers temps.
D'accord. Ambrose?
Bon, pour les éperviers, je préfère dire bonne chance.
C'est la bonne des choses. D'accord, Michel.
Oh, vous savez, c'est le Togo qui joue. Et quand le Togo joue, en principe, je dis bien en principe, nous devons être à l'unisson. Parce que c'est notre pays qui sort, c'est notre pays qui joue. Mais quand on voit ce qui se passe au niveau de la fédération, au niveau du staff technique, tout ça là. Moi, j'ai une position depuis que, bon, elle n'a pas changé.
Et c'est quoi la position?
On doit, c'est-à-dire aujourd'hui, le chef doit prendre le football togolais pour au moins 3 ou 5 ans et mettre des gens, 3 ou 2 ou 3 personnes, pour voir comment nous réorganiser le football.
Mais est-ce qu'il n'a pas beaucoup de choses à faire,
le chef? Non, mais attendez. Le football, là. Aujourd'hui...
Et c'est pourquoi il y a même une ministre...
Alors on ne blague pas avec le football. Mais elle est venue là, elle a mis la barre très haute. Nous en sommes où? Elle a mis là-bas, je suis d'accord avec elle. Elle est une dame d'abord et puis une officier de l'armée. Elle a mis la barre très haute. Mais je pense que le temps est passé, elle a compris.
Elle a compris quoi?
Non, ce qui se passe pendant 8 ans, on continue. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on demande les demandables aux Togolais. Non, il y a des choses à faire. Le bureau, c'est des gens à mettre de côté. Après plus de 8 ans, je ne sais pas si les gens ont eu quelque chose. Vous savez, avec Claude Leroy, on perd les matchs, il dit non, demain sera bon. On perd les matchs, que demain sera bon. Lui, pas droit, il vient, c'est le même discours. Non, vous savez, les Togolais ne sont pas coins. Le Dieu là, à qui nous croyons là, il est bon pour toutes les espèces. Sur la planète, hein, ce n'est pas pour nous seuls. Hein.
D'accord.
Donc, il faut que nous fassions attention lorsque il s'agit. Ambra le disait, c'est vrai, au côté sport, au Togo, vraiment, il y a des soucis. Mais pour le football, je ne sais pas quel est le vrai problème. On continue comme ça, une fédération qui ne nous donne rien, qui fait troisième mandat, on ne sait pas. Non, ce n'est pas. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer comme ça, Echo. Mais qu'à cela ne tienne, si le Togo gagne, c'est mon pays. Hein.
Voilà, c'est l'essentiel. Et comme Ambroise l'a dit, on ne peut que souhaiter bonne chance aux éperviers. Merci beaucoup, chers confrères et Michel Yaou Tchadja, merci d'être passé dans cette émission. Ambroise Ponzo, merci aussi d'être passé dans cette émission. Jean Polerini, merci d'être passé. Magloire Kinviteko, merci à toi d'avoir contribué à ce débat citoyen avec ta réflexion. Merci pour tout ce que vous faites, surtout pour merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi, merci à Michel Toméga qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Akoutcha. Je suis Pascal Loussou, je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien, au revoir.